Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Pierre Luce, ancien référent départemental de La République En Marche dans les Yvelines, militant des jeunes avec Macron. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous soutenez la candidature d'Emmanuel Macron pour un deuxième quinquennat. Nous allons en parler dans un instant, mais d'abord, j'aimerais qu'on évoque la situation en Ukraine. Le président Macron est très impliqué dans ce dossier, puisqu'il est en contact à la fois avec le président Poutine et le président Zelensky. Il a réuni les 27 la semaine dernière à Versailles. Les sanctions et l'action diplomatique peuvent-elles conduire le président russe à stopper cette guerre ?
Écoutez, les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne et par ses alliés occidentaux, elles étaient indispensables. Vous me demandez si elles peuvent amener à conduire Vladimir Poutine à arrêter son offensive. Moi, je vous demande qu'est-ce qui pourrait l'amener à le faire autre que les sanctions diplomatiques et économiques. L'étape d'après, c'est la guerre, et la guerre, personne n'en veut. Et ces sanctions, c'est, j'ai envie de dire, c'est notre bouclier. Qui permettra de mettre fin à cette violence, cette invasion injustifiée et inacceptable. Ces sanctions, elles sont extrêmement dures pour la Russie. On le voit tous les jours. L'économie russe est en grande difficulté. Ils sont bientôt au bord du défaut de paiement. Je pense que c'est la seule façon de faire retrouver la raison à Vladimir Poutine. C'est de le frapper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille.
Mardi soir, une femme a accompli un acte d'un immense courage en dénonçant en direct la guerre en Ukraine. Cela s'est passé dans le journal le plus suivi de Russie. Que vous inspire le geste de cette femme ?
Ce qui m'inspire déjà, c'est un profond respect pour son action, pour le risque qu'elle a pris. Et on voit qu'on est sans nouvelles de cette femme depuis hier, alors que je vous parle, ce qui montre bien le degré de... avec lequel la liberté d'expression est mise en danger en Russie. Ça m'inspire que ce que nous faisons est juste. Nous défendons le bon côté, sans être manichéen. Un régime qui ne laisse pas des journalistes s'exprimer librement à l'antenne n'est pas un régime démocratique. Et je me dis que si ces actes de courage se multiplient, peut-être que la population russe sera en mesure d'envoyer un signal fort à ses dirigeants pour que à la fois cette offensive s'arrête, mais qu'à la fois aussi le régime change de manière de faire.
La France, comme d'autres États européens, accueille des réfugiés ukrainiens, et on a le sentiment que cette fois-ci, contrairement à d'autres conflits dans le passé, la solidarité est totale avec ces réfugiés. C'est le devoir de la France d'aider ces réfugiés, et c'est important aussi d'avoir ce regard de compassion.
C'est le devoir de la France, c'est l'honneur de la France d'accueillir ces réfugiés. Cette fois-ci, à la différence d'autres conflits par le passé, il y a deux différences importantes. C'est déjà un déplacement annoncé comme étant massif. On en est à près de 2,5 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine. L'ONU annonce qu'il y aura probablement jusqu'à 5 millions de réfugiés. Donc c'est une échelle inconnue des conflits récents. Et c'est un pays qui est extrêmement proche la frontière la plus occidentale de l'Ukraine est à 1,300 km de la France. Donc c'est à la fois quelque chose d'affreusement massif et de très près. C'est la frontière de l'Europe. Donc les pays les plus près vont être en grande difficulté. L'honneur de la France là-dedans, c'est de prendre sa part et d'accueillir des réfugiés en proportion de ce qu'elle peut accueillir et pour soulager les pays frontaliers.
Pierre Luce, Emmanuel Macron fait campagne d'une manière inédite lors d'une élection présidentielle. Il y a peu de déplacements en raison de la guerre en Ukraine. Est-ce que ça ne risque pas de susciter le désintérêt des Français et de frustrer aussi les adversaires politiques du président sortant ?
Vous savez, cette crise a un impact essentiellement sur la forme de la campagne. C'est évident que le président de la République a beaucoup moins de temps à consacrer, à faire des déplacements, à faire des meetings, qui seraient d'ailleurs probablement un peu étrange d'avoir des rassemblements festifs, comme le sont souvent les meetings politiques, entre deux réunions de crise avec Vladimir Poutine ou Joe Biden. Donc l'impact, il est surtout sur la forme. Sur le fond, quel est l'impact? On ramène au premier plan des sujets de souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, de défense européenne, des éléments qui n'étaient pas du tout dans les discussions politiques il y a deux mois de cela. Ça change surtout le fond de la discussion de ce débat des présidentielles. Et au final, ce sont des sujets qui intéressent les Français. Je ne pense pas que ça provoque un désintérêt. C'est une campagne originale, mais je pense qu'elles sont toutes différentes les unes des autres, ces campagnes. Et les sujets de fond, par contre, intéresseront les Français en premier lieu, je pense.
Gérard Larcher estime qu'Emmanuel Macron tente d'enjamber la présidentielle. Pour le président du Sénat, l'absence de campagne pose une question de légitimité. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique de ce haut personnage de l'État ?
Je pense que Gérard Larcher a accusé le président de la République de vouloir enjamber tous les scrutins depuis 2017. Donc je ne sais pas s'il faut forcément prêter une attention forte à ce propos très partisan du défenseur d'une candidate qui est en difficulté dans les sondages. Je pense que quand on n'arrive pas à convaincre, on préférera toujours remettre en cause la légitimité de celui qui arrive à convaincre. Je pense que c'est pas très sérieux, notamment de la part du président du Sénat, de s'abaisser à ça. Le président de la République ne va pas tout arrêter pour faire une campagne à 100% de son temps, alors qu'il y a des responsabilités immenses qui lui incombent en son temps.
Pierre Luce, vous avez été un partisan du président de la République dès 2016, quand il s'est lancé en campagne. 5 ans après, il est à nouveau candidat. Pourquoi souhaitez-vous un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron ?
Parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour aboutir à la vision de la France qu'Emmanuel Macron a dessinée en 2016 et en 2017. Beaucoup de choses ont été faites. Il y a des réformes qui ont été menées qui faut peut-être corriger. Il y en a qui doivent encore porter leurs fruits. Il y a des réformes à terminer et il y en a encore d'autres à engager. Pourquoi ? Parce que le déroulement du mandat n'a pas été de tout repos, il n'a pas été serein. On n'a pas forcément toujours pu aller au bout des choses, lancer toutes les réformes qu'on voulait lancer. Et aussi, de nouveaux enjeux apparaissent. On parlait de la crise en Ukraine il y a quelques minutes. Cela fait remonter un peu dans l'ordre des priorités certains sujets qui étaient peut-être ignorés depuis un moment et sur lesquels on a encore beaucoup à faire.
Alors, Emmanuel Macron articule son programme autour de 4 pactes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Pierre Luce ?
Oui, moi celui qui me touche le plus dans ce qu'il a pu annoncer jusqu'à maintenant et qui entrera probablement plus dans les détails dans les jours à venir avec la distribution de son programme dans les boîtes aux lettres des Français, c'est l'école. L'école, vous savez, c'est un peu le berceau de la République. C'est comme ça que le président Macron l'a conceptualisé depuis 5 ans. C'est là que tout se joue. C'est souvent de là dont partent beaucoup d'inégalités dans la vie par la suite et qu'on peut difficilement rattraper. On parle d'adapter l'école aux élèves. Tous les élèves ne sont pas dans la même situation, toutes les écoles ne sont pas dans la même situation. On ne peut plus continuer à bloquer les initiatives des enseignants, par exemple, ou la liberté des directeurs d'établissement dans leur recrutement. On ne peut plus fonctionner comme si 2 écoles de 2 quartiers différents se valaient. Il faut pouvoir s'adapter plus facilement, localement, à des situations ponctuelles, à des particularités du territoire. Le président propose aussi de généraliser 30 minutes de sport par jour. Ça a été expérimenté avec succès dans certains départements. Pourquoi ? Parce que l'accès au sport, aux activités sportives, est là aussi assez inégal en fonction de la situation sociale des élèves. Et on sait tout le bien que un peu d'activité sportive chaque jour apporte aussi bien au corps qu'à l'esprit.
Alors il veut aussi réformer le lycée professionnel. Il veut notamment que les lycéens soient rémunérés pour leur temps d'entreprise comme le sont les apprentis. Si j'ai bien compris, c'est l'État qui assumera cette gratification. L'idée de ce projet, c'est de s'inscrire dans la réindustrialisation de la France.
Oui, vous savez, on a mené depuis 5 ans un travail important sur l'apprentissage. pour le revaloriser déjà aux yeux des élèves, aux yeux des parents d'élèves, aux yeux des professionnels, des enseignants, et aussi pour faciliter pour les entreprises les démarches de recrutement en apprentissage. Et on voit le succès phénoménal qu'ont eu ces démarches et ces réformes depuis 5 ans. L'idée sur le lycée professionnel, c'est d'entrer dans la même démarche de valorisation des métiers appris dans les lycées professionnels, de rapprocher ces filières-là du monde, rapprocher le monde professionnel des entreprises et les lycées pour permettre aux élèves d'avoir les formations qui soient professionnalisantes et qui leur permettent dès le début de gagner en autonomie et de les faire rentrer plus facilement dans la vie active, leur permettre plus facilement de trouver un emploi après, un emploi qui rémunère et qui est la source de leur autonomie.
Et il faudra revoir notamment certaines filières qui ont peu de débouchés professionnels aujourd'hui.
Vous savez, c'est toujours très compliqué. Moi, j'ai passé mon bac dans un lycée général et professionnel qui avait une filière sur la papeterie, qui était une des seules filières en France où vous pouviez apprendre les métiers de la papeterie, avec très peu de débouchés derrière, mais il fallait quand même bien des personnes formées. Donc je pense que la difficulté, elle est d'adapter l'offre de formation à la réalité du marché professionnel. Il ne s'agit pas de fermer ou d'ouvrir des filières sur des idées ou de l'instinct ou des choses comme ça. Il faut étudier, il faut rapprocher les syndicats professionnels de l'éducation nationale pour que ensemble on puisse dessiner les carrières du futur à partir des réels besoins du terrain et des entreprises.
Pierre Luce, Emmanuel Macron a évoqué aussi le chantier de la santé. Tous les acteurs politiques ont déploré les difficultés à l'hôpital, une crise qui a commencé bien avant le Covid. Malgré le Ségur de la santé, la fin du numerus clausus pour la formation des médecins, les Français ont le sentiment encore d'une inégalité dans l'accès aux soins, selon les territoires où vous vivez, selon votre niveau social. La santé, ça doit être une priorité du prochain quinquennat ?
Vous savez, je pense que la santé a déjà été une priorité depuis quelques années. Comme vous le dites, les problèmes de l'hôpital public et de l'accès aux soins en général en France n'est pas nouveau. Et il vient principalement du fait que, jusqu'à Emmanuel Macron, aucun gouvernement n'avait eu le courage de supprimer le numerus clausus en temps et en heure pour permettre de former plus de médecins. Cette réforme qui a été faite au tout début de quinquennat, elle ne porte pas encore ses fruits, parce qu'il faut bien plus de temps pour former des médecins. En attendant, il faut qu'on trouve des manières de compenser ce manque d'effectifs. Il n'y a pas de formule magique qui va permettre de faire arriver en 2022 ou en 2023 les 10, 15, 20 000 médecins qui peuvent manquer en France. Par contre, on peut favoriser l'innovation, on peut décharger administrativement les médecins, en les rendant plus efficaces, que leur temps médical disponible soit plus important. Ça ne veut pas dire passer moins de temps avec chaque patient, ça veut simplement dire passer moins de temps à faire autre chose que de la médecine. Et donc tout l'enjeu à court terme, c'est de trouver des solutions pour permettre aux médecins de passer plus de temps avec leurs patients. Et pour le personnel soignant d'une manière générale, il ne suffit pas d'ouvrir des postes, il faut aussi encourager les personnes à devenir aides-soignants, à devenir infirmiers ou infirmières, et à le rester dans le temps. Et ça passe par une revalorisation des conditions de travail, une augmentation des salaires, et c'est ce qui a été fait avec le Ségur de la santé. Par exemple, un aide-soignant en début de carrière, il va toucher 228 euros par mois en plus qu'auparavant. C'est énorme. C'est comme ça, en redessinant des carrières, en revalorisant les métiers, qu'on va permettre d'augmenter les recrutements. Parce qu'encore une fois, si on ouvre des postes et que personne ne postule, on n'aura pas de personnel en plus.
Pierre Luce, Emmanuel Macron a annoncé qu'il repousserait l'âge de la retraite à 65 ans. Ses adversaires de gauche ont rappelé qu'une partie des Français qui ont des métiers pénibles décèdent avant l'âge de 62 ans. Est-ce qu'une telle réforme ne vous paraît pas injuste socialement ?
Je pense que sur la retraite, comme sur d'autres sujets, il ne faut pas se focaliser sur un seul élément de la retraite. Ce que propose Emmanuel Macron, et ce qu'il avait commencé à proposer avec le début de réforme de la retraite pendant son quinquennat, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Il ne s'agit pas que d'âge de départ, il s'agit de durée totale de travail, de prise en compte de la pénibilité dans les différentes carrières, et d'une trajectoire générale en fait de la carrière, avec par exemple peut-être plus de travail en début de carrière et une réduction du temps de travail en fin de carrière. Et aussi un aménagement des postes. Quelqu'un qui commence sa vie comme ouvrier spécialisé dans une usine, peut-être qu'en fin de carrière, il sera tout à fait capable d'avoir un métier moins pénible, moins physique, et qui lui permettra de travailler jusqu'à 65 ans. Mais encore une fois, il s'agit surtout de redonner de la lisibilité aux Français sur leur retraite, qui ne comprennent pas les différences de régime à l'heure actuelle, qui sont totalement indépendantes de la réalité du travail. Aujourd'hui, les régimes spéciaux, ils sont issus d'un corporatisme dans certaines branches professionnelles, mais pas du tout d'une réalité de terrain qui rend une carrière plus difficile ou moins difficile. Donc, il s'agit un peu de repartir de zéro sur un système qui, effectivement, pourrait inclure un âge de départ plus tardif, mais qui saura aussi s'adapter aux capacités de chacun.
Emmanuel Macron veut supprimer la redevance télé, une mesure qui va dans le sens de la suppression de la taxe d'habitation. On comprend que cela va donner du pouvoir d'achat en plus, mais Pierre Luce, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir l'audiovisuel public privé de la plupart de ses ressources ?
Vous savez, je pense que là, il y a un procès d'intention est fait à Emmanuel Macron sur ce sujet-là, parce que la redevance télé, c'est qu'un véhicule de perception de moyens financiers. C'est une taxe qui abonde le budget de l'État et qui est effectivement présentée comme étant destinée à financer les usages publics. Retirer la redevance, ça ne veut pas dire retirer le financement. L'État continuera de financer le service public. Retirer la redevance télé, ça ne veut pas dire arrêter de financer. On a montré ces dernières années qu'on était capable de diminuer certains impôts, voire d'en supprimer, sans pour autant couper les financements correspondants aux personnes qui étaient destinataires de cet impôt. Donc je pense qu'il n'y a pas de risque spécifique pour le financement du service public lié à la suppression de la redevance télé.
Dernière question, Pierre Luce. Emmanuel Macron promet un grand débat permanent s'il est réélu. Il a tiré en quelque sorte la leçon des Gilets jaunes.
Écoutez, je pense que Emmanuel Macron a appréhender complètement l'envie de débat des Français et l'envie de participer pleinement au fonctionnement démocratique. Les élections, ça n'est pas suffisant pour que les Français puissent s'exprimer, et il faut leur donner un moyen de faire remonter leur point de vue, leurs aspirations, et ce, effectivement, en permanence. Le grand débat a montré l'appétence des Français pour cet exercice-là. Et le président de la République a montré aussi à quel point c'était compatible avec notre démocratie, notre fonctionnement présidentiel, représentatif, qui impose évidemment des élections et des élus qui doivent être respectés dans leurs prérogatives, mais qui n'empêchent pas de pouvoir un peu formaliser et institutionnaliser les échanges avec les Français.
Merci Pierre Luce. Je rappelle que vous êtes ancien référent départemental de La République En Marche dans les Yvelines, militant des jeunes avec Macron. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.